Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nos trois invités qui sont d'abord Nadine Levrato. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'université de Paris-Nanterre. Gaëlle Mac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Guillaume Poitrinal, bonjour.
Bonjour.
Guillaume, vous êtes chef d'entreprise, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone.
WO2.
Ah, vous dites pas Wood,
c'est non W-O-2.
C'est O2
comme l'oxygène.
Oui, mais il y a pas Wood comme bois.
Ouais, c'est la maison mère de Woodéum.
Ah bah voilà. Et on rappelle votre dernier livre, Guillaume, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action. C'est publié chez Stock.
Exact.
Nous en reparlerons. Commençons par la loi pouvoir d'achat avec ses mesures permanentes, ses réévaluations sur les minima sociaux, les retraites, les APL et puis toutes les mesures temporaires, les réductions sur le carburant, par exemple. Nadine Levrato, est-ce qu'on a le bon équilibre sur cette loi pouvoir d'achat?
Je ne sais pas ce qu'est le bon équilibre, donc déjà il y a
l'équilibre qui vous paraîtrait idéal.
Alors non, puisque déjà sur les revalorisations, le compte n'y est pas. Les taux de revalorisation sont inférieurs à l'inflation. Donc en termes de pouvoir d'achat, il y a quand même des pertes. J'ai entendu que vous débattiez hier des 3,5% sur les lois. Répartis entre les propriétaires, ouais. les locataires.
Qui doit faire l'effort.
Voilà.
3,5%, c'est le plafonnement de l'augmentation
des loyers.
Des loyers.
Donc, on voit bien que sur ces mesures-là, le gouvernement a essayé de faire une côte plus ou moins bien ou mal taillée, selon la manière dont on voit les choses. Mais on voit aussi, et peut-être surtout, qu'il y a beaucoup d'efforts qui, finalement, seront demandés aux organismes sociaux, avec toutes les mesures de défiscalisation, des heures supplémentaires. On parle de la possibilité de pouvoir racheter les jours de compte épargne-temps. Et donc, toutes ces exonérations qui viennent s'ajouter aux exonérations massives de cotisations sociales dont bénéficient déjà les employeurs et qui vont venir encore creuser le déficit des comptes de la Sécurité sociale en particulier, sont à terme très, très dangereuses pour l'ensemble du système.
Guillaume Poitrinal.
Oui, on va pas être tout à fait d'accord. Une exonération de cotisations sociales, c'est pas nécessairement un bénéfice pour l'employeur. En fait, il faut comprendre que l'employeur, lui, ce qu'il voit, c'est son super brut. C'est-à-dire sa capacité, etc. Si vous prélevez sur ce super brut, une cotisation sociale, ça va faire du revenu net en moins pour le salarié. Donc il faut arrêter de penser que la cotisation sociale, c'est un impôt qui est prélevé dans la poche de l'entreprise. La cotisation sociale, c'est tout simplement un prélèvement sur la valeur travail qui est chez les gens. Donc très honnêtement, aujourd'hui, la question qui se pose sur ce plan de soutien au pouvoir d'achat, elle est toute simple. C'est qui paye? Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Donc on a un soutien au pouvoir d'achat et on n'a pas d'augmentation d'impôt. Donc, qui paye? C'est assez simple, c'est le déficit. Et si c'est le déficit, c'est les générations d'après. Et c'est ce que je racontais dans mon livre, c'est-à-dire qu'on est devant, nous, une génération de boomers, on a décidé de dépenser plus que ce qu'on gagne. Et la différence, ça s'appelle la dette publique. Et cette dette publique, elle n'arrête pas de croître. Donc, on est dans un pays absolument fantastique, dans lequel nous avons le record des prélèvements obligatoires, 60%, donc 20% de plus que la moyenne de l'OCDE, 20% de plus de prélèvements obligatoires que les Allemands. Nous avons le record de prélèvements obligatoires. pardon, de la dépense publique, hein, la dépense publique à 60%, donc 20% de plus de dépense publique, qui est financée par un record de prélèvement obligatoire et qui est financée par un record de dette. Et la dette, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le boomer qui consomme sur le dos de ses enfants. Puisqu'en fait, nous allons laisser, nous, à nos enfants, une dette publique absolument considérable, délirante, qui aujourd'hui se trouve être pas trop chère parce que les taux d'intérêt sont encore pas chers. Mais évidemment, un jour, leur caisse va s'arrêter et un jour, il va falloir payer cette dette. Donc, c'est ça aujourd'hui le sujet. C'est ce plan de relance du pouvoir d'achat formidable qui paye.
Vous avez raison, on ne va pas tout à fait être d'accord parce que ce discours, ce raisonnement que vous tenez, en fait, ça fait 30 ans qu'il est tenu, donc il ne s'applique pas spécifiquement à la situation présente. Les boomers qui ont créé la dette, mais quel boomer? Alors là, moi, je
et vous
je
et moi, chère madame.
Non, c'est pas
vous et moi.
Vous et moi, je ne
si,
pense
vous
pas.
Et moi.
Non, il faut regarder plus précisément. On sait bien que l'effet générationnel n'écrase pas les structures sociale et l'analyse par premièrement catégorie socioprofessionnelle, deuxièmement par type d'agent, les ménages et les entreprises. Donc il faut avoir des analyses beaucoup plus fines que ces analyses macro. On voit bien que en France, comme dans de nombreux pays européens et de l'OCDE, on a eu un croisement des contributions des ménages et des entreprises. Les entreprises paient de moins en moins, reçoivent de plus en plus.
Mais c'est pas vrai.
Mais bien sûr que si. Regardez.
C'est quoi votre croisement? C'est sur vous.
C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les montants des contributions au budget de l'État, celui des entreprises est de plus en plus faible en proportion, hein, et celui des ménages de plus en plus élevé. Donc, les travaux de Clément Carbonnier qui ont été présentés.
Mais c'est vrai que la logique fiscale des 30 dernières années, ça a quand même été de moins taxer les facteurs de production les plus mobiles et de taxer davantage les facteurs de production.
Il y a un petit rééquilibrage sur les dernières années.
Non, il n'y a pas de rééquilibrage.
Mais la question, elle est toute simple. Moi, je vais vous poser la question. Elle est toute simple. On dépense 60% du PIB est en dépense publique. Est-ce que vous pensez qu'on est mieux soigné, mieux éduqué en France que dans les pays, et mieux protégé que dans les pays qui sont à 50%
la moyenne de l'OCDE. Ce sont deux questions différentes.
Je vous pose la question.
Non, mais je vous réponds. Ce sont deux questions différentes. Combien on consacre et comment on dépense? Je suis d'accord avec vous, la dépense est très mal gérée. Voilà. Donc si c'est
vous savez ce qu'on fait dans l'entreprise quand on a ça, quand on a une dépense très mal gérée?
On diminue la dépense d'abord. Non. Oui, peut-être en entreprise, mais un pays n'est pas une entreprise. Vous le savez très bien, bien sûr.
Non, mais le rapport.
Quand on a un budget, mais vous savez, une entreprise, ça marche. Une entreprise, c'est pas un ovni. Ça marche aussi avec des budgets.
C'est bien, c'est une institution.
Ça marche aussi avec des coûts administratifs, vous voyez. Une entreprise, ça, c'est
non
pas.
Non, mais il n'y a aucune institution,
chose,
quelle qu'elle soit, qui survit durablement en ayant un rapport coût-efficacité désastreux. Ça, c'est, on est là, que ce soit une entreprise ou une administration.
Si vous voulez rendre du vrai pouvoir d'achat aux Français, vous baissez la dépense publique et vous leur mettez dans la poche 3 400 € par Français.
Mais
3 400 € par an et par Français.
Dit, Gaël Mac.
C'est les 10% qui nous séparent du reste du monde normal, c'est-à-dire l'OCDE et l'Allemagne.
Cela dit, ça dépend. Les Américains dépensent beaucoup plus pour leur santé que les Français. En privé, je veux dire, certes, ce n'est pas de la dépense publique et donc ça va dans leur poche, mais au bout du compte, c'est 17% de leur PIB contre 11% en France.
Je
et je ne pense
pas
qu'ils soient
Allemands,
mieux
Gaël.
Soignés que nous. Donc, de temps en temps, je veux dire, dans le match entre, en fait, l'efficacité de la dépense publique et de la dépense privée, les choses ne sont pas forcément complètement manichéennes. Mais pour revenir à cette loi pouvoir d'achat, parce que là, je pense qu'on s'en est un peu éloigné, je trouve que ce qu'on voit aussi, surtout politiquement, c'est que c'est un premier test pour le gouvernement. Et donc, il y a des négociations avec la droite, avec la gauche, avec les uns, avec les autres. Et donc, on aboutit, je trouve, à un projet de loi un peu bancal et un peu démagogique, par certains côtés. Par exemple, cette histoire de fuel. Bon, ben voilà, on voulait donner une aide aux ménages pour pour passer l'hiver, pour ceux qui se chauffent au fioul, le gouvernement prévoyait 50 millions. Bon, bah là, les LR se sont plus ou moins associés avec la NUP, en gros, pour dire, bah non, ça va être 230 millions. Non
mais...
Et bon, je veux dire, c'est quand même les LR qui disaient, on va cramer la caisse, attention, les comptes publics.
La conclusion qu'on peut tirer du nouvel équilibre à l'Assemblée, c'est qu'il est quand même extrêmement inflationniste.
Exactement.
C'est-à-dire que, et ça, c'est quand même pas très rassurant.
C'est pas très rassurant. C'est-à-dire que toutes les mesures qui vont consister à plus aider, à donner plus d'argent, et d'une manière plus indiscriminée d'ailleurs, passe. Et toutes les mesures qui consistent à dire, bon, ben là, on va peut-être restreindre, on va peut-être faire un impôt, on va peut-être... Alors là, ne passe pas. Donc, je crains que nous ayons un mandat qui va être assez dépensier, parce que tous les gens sont d'accord pour dépenser, tous les députés, mais personne n'est d'accord pour restreindre.
Oui, ce qui est inquiétant, c'est que c'est le plus petit dénominateur commun, finalement.
Voilà, et je trouve que dans ces équilibres politiques, ça va certainement pas aider la France à avoir des comptes publics un peu plus rigoureux. Et je suis un petit peu surprise de voir que les chantres des comptes publics rigoureux que sont normalement les Républicains sont quand même les premiers à y aller du chéquier, quoi.
C'est quand même eux qui sont les plus schizophrènes aujourd'hui, on est d'accord
Un peu, quand même.
C'est pas vraiment nouveau. Quand on regarde sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la dépense publique a énormément augmenté.
Il y a une base financière, quand même.
Oui, mais sur les cycles longs, on voit que finalement, ce sont les gouvernements à orientation dite libérale, enfin RPR ou les Républicains, qui finalement ont tendance à avoir une politique de dépenses plus laxiste ou plus généreuse.
Le décrochement, il date de 2008 à peu près.
Il est antérieur.
Sur toutes les courbes 2007-2008, on voit que tout d'un coup, on se décroche des moyennes. Et c'est là où la dépense publique devient délirante.
Alors, moi je suis d'accord avec vous, le décrochement, il date de Mitterrand, en fait, il date du début des années 80. Et après, alors pour poursuivre, non mais si, allons-y dans le paradoxe, ce que vous dites, c'est qu'en gros, vous dites, la droite dépense plus que la gauche, et en même temps, la gauche a fait plus de réformes de libéralisation, d'ouverture de concurrence que la droite.
C'est son problème.
Oui,
c'est son problème d'ailleurs.
Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu quand même une sorte de politique à front renversé par rapport à, en tout cas, aux thèses défendues par ces deux camps, hein, ça c'est sûr.
Maintenant, si on fait un peu de prospective, le sujet c'est que tout ça dépend des marchés financiers. C'est-à-dire en fait du bon vouloir des épargnants prêter au gouvernement français pour financer cette dépense publique, ces plans de soutien, cette complexité administrative qui coûte extrêmement cher et qui ralentit tout le monde en plus dans le même temps. Rien n'est certain en matière de marché financier. Rien n'est certain.
C'est surtout qu'on a l'impression, enfin je ne sais pas si c'est la vôtre, mais on a à la fois l'impression qu'il y a énormément d'argent qui est prêt à financer même les dépenses publiques quand il s'agit de dépenses d'investissement, mais on voit que si c'est pour financer du train de vie et de la dépense de consommation, effectivement la patience des investisseurs elle risque d'être assez courte.
Oui, et ça va être le sujet, d'ailleurs c'est un lien avec votre deuxième sujet, c'est que de toute façon il va falloir énormément d'investissements pour passer à la société bas carbone. Parce que alors là pour le coup on change tout, il va falloir passer à l'électrique sur les voitures,
il va falloir 2% de PIB tous les ans plus
donc,
ou moins
si donc compris, donc il y a énormément d'argent et là il va falloir faire un arbitrage, c'est-à-dire cet argent il ira au pouvoir d'achat ou il ira à l'investissement, il va pas aller, le même euro n'ira pas aux deux. Et ça va être ça aussi le sujet, c'est-à-dire, ça va être un sujet d'abord de qui nous finance et ensuite ça va être un sujet de où va l'argent. Et c'est tout le sujet, à mon avis, de la civilisation bas carbone, qui de toute façon s'annonce, qui de toute façon va arriver, à mon avis, plus vite qu'on ne le pense, et qui va nous contraindre.
À noter qu'on fait bien l'inverse, hein, pour le moment. C'est-à-dire que dans la loi pouvoir d'achat, justement, cette histoire de chauffage au fioul, cette histoire de prime de remise de 30 centimes sur le carburant, en septembre et octobre, qui va nous coûter 4 milliards de plus, hein. On a déjà dépensé presque 20 milliards sur les espèces de boucliers, même plus 25, hein, je crois, sur l'année 2022. Ça va faire de 25 milliards pour pour les boucliers tarifaires d'hiver face aux énergies fossiles, hein, c'est-à-dire le gaz, le carburant. Donc, pour l'instant, dans l'urgence un peu, et je veux dire un peu tétanisé, et puis on a été quand même, je pense que les dirigeants étaient très tétanisés par les gilets jaunes, hein, donc ils sont tous un petit peu sur les questions de carburant, ils sont un petit peu tous au taquet, et ben pour l'instant, on va quand même, on prend des mesures qui sont un peu à l'inverse de ce qu'on devrait faire pour avancer
sont,
sur.
Non, mais qui sont des mesures qui seront jugées sévèrement par les générations suivantes.
Ah oui.
Là encore, parce que sponsoriser la consommation d'hydrocarbures après avoir signé tous les accords de réduction d'émissions de CO2, excusez-moi. Mais il y a un vrai bug. On aurait mieux fait de donner de l'argent aux gens et après ils choisissent ou de s'équiper d'une pompe à chaleur
ou d'augmenter les bonus pour les voitures électriques ou de
enfin voilà de... voilà ou de se chauffer au bois déchiqueté plutôt qu'au fioul. Mais très honnêtement, là on est en train de sponsoriser le fioul et l'essence. Il y a un problème.
Nadine Librato, comment vous percevez cette parce que là vraiment c'était le grand discours, on avait dit oui mais c'est pas vrai, la fin du mois, la fin du monde ne sont pas inconciliable, on doit pouvoir trouver une voie. La réalité, c'est que là, rien n'est fait justement pour enclencher cette transition, même dans nos comportements. Non, non seulement dans les mesures, mais même dans les messages. C'est-à-dire que c'est quand même du dormez braves gens, ne vous inquiétez pas.
Bien sûr.
Vous continuerez à avoir des hydrocarbures bon marché.
C'est gravissime ce qui se passe, mais là on le voit parce qu'il y a ce contexte de hausse des prix de l'énergie, mais on sait bien que sous le précédent quinquennat, les émissions ont augmenté plus qu'elles ne l'auraient dû, que la France dépasse tous ses quotas pour lesquels elle s'était engagée dans le cadre des accords de Paris. Donc, il y a vraiment une absence de politique environnementale sérieuse dans ce pays depuis au moins 10 ans. On ne savait pas quelle forme allait prendre la crise énergétique, mais on savait que les prix de l'énergie allaient augmenté. Alors peut-être pour des mauvaises raisons, hein, le fameux pic, etc. Mais on savait qu'il y aurait des tensions. Est-ce qu'il y a eu des investissements, je parle d'investissements, nécessaires pour résoudre le problème des passoires énergétiques, inciter au changement de mode de vie? On nous parle aujourd'hui de sobriété, mais enfin c'est, excusez-moi, pathétique, dans le sens où on nous dit la sobriété, c'est éteindre la lumière en sortant de la maison et couper la box Wi-Fi quand on part en vacances. Mais il y a des rapports très rigoureux. Il y a eu celui de RTE, il y a eu celui de l'ADEME, il y a celui de Negawatt qui explique ce qu'est la sobriété énergétique. C'est pas juste un slogan, c'est pas je ferme le robinet pendant que je me brosse les dents.
Alors c'est quoi?
C'est un changement des modes de vie, c'est apporter rendre à vivre dans des appartements moins chauffés, pour ceux qui ont des appartements qui sont chauffés à plus de 20. Donc c'est apprendre à vivre à 19, c'est apprendre à ne plus se déplacer en voiture, et c'est pas remplacer la voiture à moteur thermique par une voiture à moteur électrique. On sait bien que sur l'ensemble du cycle de vie de ce véhicule, il y a quand même des prélèvements de matière, un coût énergétique, un coût environnemental. Donc c'est développer des transports en commun, ce qui n'est pas fait, au contraire. Là, on a vu.
Mais ça,
le débat,
c'est un truc de citadin, ça, les transports en commun.
Non, c'est pas.
Et bien
pas
sûr
truc
que
de
si. Mais au fin fond des campagnes et des petites villes, aller parler aux gens de transports en commun.
Mais c'est ça,
c'est un
justement.
Truc de Parisien,
c'est non, c'est un problème d'infrastructure. Le réseau ferré est de moins en moins chevelu. Il était couvert d'infrastructures.
Mais parce qu'il y avait des centaines de millions de gens, Il y avait des millions de gens qui habitaient justement dans les provinces.
Mais les chemins de fer des années 30 et des années 20, d'ailleurs, ils ont fonctionné. Enfin,
mais bien sûr.
Mais parce qu'il y avait des habitants
je récupère les ponts pour la Fondation du Patrimoine, je récupère les ponts magnifiques. Eiffel, au milieu du Massif central.
Mais comment la France était-elle peuplée à l'époque?
Aujourd'hui,
vous avez d'offres, moins vous avez d'usagers. Il y a eu une détérioration du service rendu. Quand vous avez 2 trains par jour, évidemment, les gens ne le prennent pas. Mais quand vous avez des réseaux de transport...
Alors ça, c'est ce qu'on a vu en Allemagne avec quand l'ouverture à la concurrence. C'est vrai que ça a été...
Ça
le fait
revigoré,
d'augmenter la fréquence a augmenté la fréquentation.
Mais bien sûr. Et d'autre part, vous avez un problème de répartition des coûts. Là, aujourd'hui, les routes sont payées par le budget de l'État, par nos impôts. Le réseau ferré n'est pas du tout payé par les Français en général, alors que même ceux qui ne prennent pas le train en bénéficient. Non, c'est dans le prix de votre billet. C'est comme quand vous payez une grande partie.
Oui, il y a une partie. Il y a une partie. Bon, attendez, on est obligé de s'arrêter. On va reprendre. Ouais. On va reprendre sur cette dynamique autour de la sobriété énergétique. On se retrouve dans quelques instants avec nos trois experts, Nadine Levrato, Gaël Mac et Guillaume Poitrinal.